Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, Esprit de sainteté, par la médiation du cœur immaculé, douloureux et glorieux de la bienheureuse Vierge Marie. Viens, Esprit Saint, Père des pauvres, illuminer notre cœur et notre intelligence, et nous conduire à la vérité tout entière, Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire. Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire, priez pour nous. Nous sommes en retraite à l'occasion de l'Ascension. Cette année, on ne prendra pas un thème particulier, comme on avait fait les autres années, puisqu'on va essayer de regarder ensemble le mystère de Marie. Le mystère de Marie, essayer de comprendre Marie, mais essayer de comprendre Marie à travers la foi. Parce qu'on comprenait que c'est tout le problème de notre amour pour l'Immaculé, c'est que le problème de notre amour pour l'Immaculé, il est un petit peu enraciné dans énormément de choses. Notre affectivité est impliquée, notre corps est impliqué à cause du mystère de la résurrection, de l'Assomption. Notre soif d'amour maternel est impliquée à cause précisément de ce que nous n'avons pas reçu. Alors, l'être humain a besoin de recevoir en plénitude un amour très incarné, amour que, quelle que soit la perfection de la société, de la communauté, de la fraternité ou de la maternité que nous avons reçue, de la société, de la famille, de la communauté, on reçoit beaucoup de choses, notre mère aussi, de l'Église, on reçoit beaucoup, mais c'est pas parfait, on n'est pas comblé. Alors du coup, il y a tout ce manque qui est un manque humain en fait. Et du coup, on essaie très mélanger notre approche de la Vierge. Ce qui n'est pas mélangé, c'est l'approche que la Vierge fait vis-à-vis de nous, quand l'Immaculé s'approche de nous. D'ailleurs, ce qui serait magnifique, c'est peut-être d'ailleurs magnifique d'essayer de se rapprocher de l'Immaculé le jour de l'Ascension, parce que le jour de l'Ascension, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est retiré, Jésus s'est effacé, Jésus a été enlevé, Jésus a été emporté loin, comme dit l'Écriture. Loin, la nuée a enlevé Jésus, loin, hors de leurs yeux. Et puis, il a été enlevé. Et comme il a été enlevé, c'est le même mot en grec qui est employé dans l'Écriture, cet enlèvement, c'est le même mot qui est employé pour dire Jésus a enlevé nos péchés. Il a enlevé nos péchés. Vous voyez, c'est passé quand même assez extraordinaire que Jésus ait été enlevé dans le sein du Père, loin, loin, hors de nos yeux, et en même temps, en faisant ça, il nous enlève à nos péchés. Il nous enlève tout ce qui fait qu'on est replié sur nous, quoi. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse vis-à-vis de l'Immaculée, qu'on voit Marie pour elle-même, pas en fonction de nos péchés, de nos failles, de nos limites, de nos soifs, non, non, pas en fonction de nous, pas en fonction de notre structure, de notre nature, de notre cœur, mais ça, elle, pour elle-même, tout ce que nous ne sommes pas, tout ce que nous ne vivons pas, c'est elle. Elle a regardé pour elle-même la plus grande objectivité. Et ça, il n'y a que la foi qui permet ça. La foi toute pure. La foi toute immaculée. C'est-à-dire que par la foi, qu'on peut arriver à avoir Marie, alors si on la voit pour elle-même, on peut l'aimer. Ce serait beau, justement, si on pouvait arriver à faire cette chose très difficile de nous plonger la tête en avant et totalement dans les ténèbres de la foi. Pas voir donc l'Immaculée en fonction de ce que nous en comprenons, ce que nous en ressentons, mais telle qu'elle est. Alors, la foi toute pure. Et la foi, donc, si on veut atteindre donc Marie par la foi, on sent très bien. Il faut qu'il y ait quelque chose dans l'ordre de la lumière qui soit anéanti, qui disparaisse. Jésus qui est lumière. Jésus, c'est notre lumière. Et Jésus monte au ciel, très loin. On ne voit plus rien du tout. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pour nous laisser quelque part, pour laisser les apôtres, pour laisser l'Église naissante à l'Immaculée. Ça qui est très fort. C'est pour ça que c'est beau de commencer peut-être c'est très ambitieux, hein, je sais bien, de commencer cette petite retraite un jour de l'Ascension. C'est très ambitieux de faire ce que nous allons faire. Je vous préviens, je crois que ce sera assez difficile. C'est pour ça que je vous encourage à prendre vraiment des papiers et à écrire. Parce que dans tout ce que nous essaierons de voir, je crois que ce ne sera pas si facile de le comprendre tout de suite. Mais si vous l'écrivez, je crois que plus tard, ce sera facile à voir. Parce que le mystère de Marie est un mystère qui est très, très profond. Et donc, il y a une exigence dans la définition, dans la doctrine, dans l'obéissance de notre intelligence au mystère de Marie. Et il faut absolument qu'on sorte de notre intelligence à nous par rapport à Marie. Il faut qu'on rentre dans l'intelligence de la foi. Notre intelligence par rapport à Marie est pleine de lumière. Dès qu'on voit l'Immaculée, dès que l'Immaculée t'apparaît, parce que tu l'as pris en disant le rosaire, dès que l'Immaculée te parle, c'est lumineux. C'est évident qu'à chaque fois qu'on dit le rosaire, l'Immaculée, là, c'est lumineux. Hein? On déborde de lumière, on est dans un océan de lumière. Un océan de grâce, une mer de cristal. C'est étonnant. On baigne dans un bain de lumière. C'est évident, ça. Mais pourtant, c'est nous, ça. C'est ça qu'il faudrait qu'on voit bien. L'Immaculée est très, très au-delà de ça, de ce que j'en ressens dans la lumière. Il faut, quelque part, il y a quelque chose de très très difficile. Il faut arriver à rentrer au-delà de cette lumière que l'Immaculée, comme une sucette, comme un petit verre, vous savez, quand on pêche, c'est Jésus a mis Saint-Pierre comme chef de l'Église pour aller à la pêche. Et vous savez très bien, on met un hameçon, on met un petit verre pour prendre le poisson. Et Marie, si elle est chef de l'Église, la chef des armées rangées en bataille, la reine du ciel et de la terre, elle met ce petit hameçon. Le petit hameçon, en réalité, c'est l'ennemi de notre compréhension de Marie. Ce petit hameçon, vous voyez, c'est cette lumière merveilleuse. Alors, on s'approche du coup de Marie. Et du coup, elle nous prend. Mais vous savez que l'hameçon, vous voyez, le poisson, il prend l'hameçon, il pense que c'est pour son plaisir, et en réalité, c'est pour un désastre pour lui. Vous voyez bien que notre manière d'un désastre pour lui, mais ce n'est pas un désastre pour le pécheur. Parce qu'il a fait une belle prise. Et du coup, le poisson connaît son maître, notamment lorsqu'il est assimilé par lui. Pour ainsi dire, par le point de vue du corps. On comprend bien que sa vitalité intérieure n'y participe pas. Il est mort. Je suis enchanté de cette analogie que je viens de découvrir. Mais l'aspect. Parce que c'est vrai qu'avec Marie, c'est pareil, il y a cette espèce de lumière extraordinaire, cet amour qu'on a pour elle et qu'on ressent très fort. On sent qu'on a besoin d'une mère. un très très fort besoin. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mordre à ce tapas-là. Il faut mordre à pleines dents à ce tapas-là. Mais c'est pour sortir de l'eau. Et puis rentrer dans les ténèbres totales. Et puis saisir Marie dans son mystère. Dans son mystère. Et permettre que ce soit la foi. Parce que Marie, c'est beaucoup plus que... c'est beaucoup plus que quelque chose qui est pour nous. Marie n'est pas premièrement pour nous. Marie est premièrement pour Dieu. Marie est premièrement pour la très sainte Trinité. Marie est premièrement pour la grâce incréée des grandes processions de génération et de poids, d'amour et d'émanation qui constituent le Verbe et qui constituent l'Esprit Saint et qui constituent la très sainte Trinité dans l'unité de l'être divin. Avant toute création du monde, Marie est pour ça. Le mystère de Marie, c'est pour Dieu qu'il y a le mystère de Marie. En premier. Et pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés pour lui. Et c'est pour ça que c'est elle la porte. Mais pour ça, il faut comprendre. Et je voudrais bien comprendre. Je vous préviens, ça ne va pas être facile. Hein. Parce qu'on n'est pas du tout habitué à atteindre Marie par la foi. Mystère de Marie. La foi, c'est ténébreux, nécessairement. Il y a quelque chose qui, quand on rentre dans la foi, dans un acte de foi, dans une foi éclairée, dans une foi habitée, dans une foi vivante, hein, dans une foi active, dans une foi animée par l'amour, par la charité, il y a quelque chose, la foi qui à laquelle on est vraiment rebelle. Notre intelligence est rebelle à la foi. Il y a quelque chose, une rébellion, une révolte des gens, qui explique d'ailleurs la révolte de Lucifer. Parce que l'intelligence créée par rapport à la foi, c'est terrible. Il n'y a rien qu'à voir dans notre vie. Hein. C'est quelquefois tout le temps on est en train de dire waouh, ça ne va pas. Hein. Non, je ne veux pas. Moi, je veux mes lumières. Mes lumières, c'est celles sur je m'appuie. Je m'appuie sur les lumières. Elles viennent de Dieu, mes lumières, non. Alors, je m'appuie sur ces lumières. Ça, c'est. Et alors cette rébellion de Lucifer, oui, qui veut s'appuyer uniquement sur les lumières qu'il a, même si elles sont reçues de Dieu. Tout en nous est reçu de Dieu, alors. C'est extraordinaire, cette rébellion de l'intelligence, par rapport à la foi. Parce que la foi atteint Dieu à l'intérieur de lui-même. La foi touche Dieu. Tingit, boum. Tandis que lorsque c'est à l'intérieur Dieu, directement est touché par la foi. Tandis que quand c'est pas par la foi, c'est par mes lumières, c'est par les lumières qu'il m'a données, je touche les choses de Dieu. Les choses qui sortent de Dieu. Je ne crains pas Dieu. Par le culte religieux, par l'affection que j'ai vis-à-vis de Dieu, par l'union à Dieu. C'est très bien, il faut mordre en pleine dent, là-dedans, c'est sûr. Mais c'est pour sortir de là et atteindre Dieu par la foi. La foi nous enlève de la condition de l'intelligence. L'intelligence, pourtant, et permet en même temps à l'intelligence d'être pénétrée au-delà d'elle-même et à l'intérieur de Dieu. La foi, c'est quelque chose de très, très extraordinaire. Et ça implique nécessairement qu'elle accepte les ténèbres. Fides in tenebris, lucet. La foi, elle ne luit que dans la ténèbre. Et plus c'est ténébreux, plus tu as la foi. Parce que quand tu n'as plus aucune lumière, et que tu fais l'acte de foi, c'est Dieu qui est atteint. Et ce n'est pas les lumières qu'il t'a données. C'est pour ça qu'il faut faire des actes de foi. Et que quand on est dans la lumière, dans la ténèbre, pardon, totale, c'est le moment de la plus grande grâce du point de vue de la foi. Et il faut rentrer, s'approcher de Marie avec cet habitus de la foi, qui est la porte d'entrée, au fond, de notre vie chrétienne. Vous voyez, comme c'est difficile ça pour nous. C'est difficile parce que on est dans un monde qui, depuis 4 siècles, donc ça fait combien de générations, n'est-ce pas, 4 fois 5, 20, 20 générations, est conditionné par toute une pensée occidentale, soi-disant chrétienne, mais en fait anti-chrétienne, le fameux siècle des Lumières, c'est ça que ça veut dire, le siècle des Lumières, je m'appuie que sur les Lumières, même sur le plan de la foi. C'est à partir de Descartes qu'il y a eu ça. Et on est complètement conditionné par ça. On est, notre foi, si vous voulez, notre vie chrétienne, la foi, tu l'as reçue de tes parents, tu l'as reçue de l'Église, tu l'as reçue des curés, etc. Comprenez? Et du coup, on reçoit ça. Il y a un atavisme terrible des chrétiens d'aujourd'hui par rapport à la foi. C'est très très dur là, de vivre la foi chrétienne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle nous a été transmise à l'intérieur d'un conditionnement particulier au niveau de l'intelligence. C'est inouï, vous comprenez? À quel point, j'allais dire, on est pauvre. On n'est pas du tout fort comme les apôtres du point de vue de la foi. Pas du tout. Une disponibilité vis-à-vis de la foi qui est complètement anéantie, homicidée. Ça, c'est clair. On le voit bien, d'ailleurs, pour nous-mêmes. Et ça s'explique aussi parce que dans le grand conditionnement intellectuel des siècles dans lesquels nous vivons, on ne peut plus regarder Dieu de la même manière que nos pères l'a regardé. Pourquoi? Parce que on est à l'intérieur donc d'un conditionnement qu'on appelle, je m'excuse pour ceux qui trouvent ça trop compliqué, mais qu'on appelle l'ontologisme, n'est-ce pas? Il y a juste peut-être un qui comprend ici ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Bon, l'ontologisme. L'ontologisme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On confond l'être, l'objectivité de l'être, le fait que quelque chose existe, et puis la vie. Alors, comme on confond l'être et la vie, il n'y a plus possibilité pour l'intelligence de s'ouvrir à l'existence de l'être premier et de l'être de Dieu. Je vais atteindre Dieu par ma vie. Parce que l'être en moi, c'est ma vie, mon existence, c'est ma vie. Ma vie, c'est mon existence. Et donc ce que je vis, c'est ça qui existe. Vous voyez, cette confusion pratique entre l'être et la vie, qui fait que du coup je ne peux plus découvrir l'être premier. Parce que l'être et la vie, en réalité, sont tout à fait des choses tout à fait différentes. L'ontologisme, c'est ça, c'est de confondre des choses qui sont de l'ordre de l'esprit. L'être, l'ordre métaphysique, la vie spirituelle, donc le point de vue spirituel de l'âme, et puis le point de vue vivant de l'âme. Notre âme est spirituelle, vous le savez. Nous avons un corps, et puis, qu'est-ce qui fait que notre corps est pleinement humain? C'est parce qu'il y a une âme spirituelle. L'air de rien de dire ça. N'empêche que ça veut dire des choses tout à fait extraordinaires. C'est quand même extraordinaire. Parce que du coup, on voit qu'effectivement, l'âme donne cette espèce de vitalité intérieure en soi. Et puis en même temps, vous avez l'esprit. Et cette âme est en même temps spirituelle. C'est pour ça que c'est comme l'âme est spirituelle, il n'y a pas un esprit plus une âme qui viennent s'ajouter comme deux jumeaux. Non. C'est l'esprit qui est vivant et l'âme qui est spirituelle. C'est une seule chose. Mais au fond, il y a deux aspects. Et donc, en philosophie, on va confondre complètement les deux. Puisqu'ils ne sont pas distincts. Vous voyez? On va confondre. Et c'est le problème de notre monde moderne, c'est qu'il est baigné complètement dans l'ontologisme. Alors, à cause de ça, il y a eu donc, vous le savez, les idéologies athées qui sont nées. Les idéologies athées sont nées à partir de là, et le grand libérateur, si je puis dire, c'est Feuerbach. Alors ça, c'est un auteur très intéressant, disciple de Hegel, qui a libéré ça. Et ça, bon, je veux bien vous en toucher un mot parce que ça reste important pour nous de bien saisir ça. C'est très très important ça.
de comprendre, même pour comprendre le mystère de Marie. Qu'est-ce qu'il a dit, Feuerbach? Il a dit, ben voilà, l'histoire de la religion, hein, dans son livre sur l'histoire de la religion, il regarde le christianisme et il essaie de découvrir ce que la religion est en soi. C'est-à-dire peut-être son erreur, justement. Il regarde, il essaie de faire une définition de la religion. Il constate que la religion la plus parfaite, c'est le christianisme. Et il essaie de donner une définition du christianisme. Et le christianisme, pour Feuerbach, comment il va se débarrasser de cette espèce de confusion qu'il sent. Il sent une confusion qu'ont fait les chrétiens pendant 4 siècles, cette lumière. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est clair, tout ça. Tout le monde le sent. Donc, mais personne n'arrivait à faire péter ça. Donc, il dit, il y a une confusion, une confusion. Bon, alors, il essaie de regarder la religion. La religion en soi. La religion en soi. La religion, il n'y a pas de définition de la religion, vous comprenez? La religion se définit par le tout autre, donc elle ne se définit pas en elle-même. La religion, c'est d'être lié à tout autre. Si tu regardes la religion en soi, c'est foutu. Et c'est ce qu'il fait pourtant. Donc en voulant faire sauter l'ontologisme, il prend un nouvel ontologisme. Est-ce que vous comprenez ça? Et il dit, bah, la religion le plus parfaite, c'est le christianisme. Dieu. C'est fait homme. L'homme est fait Dieu, c'est le Christ, quoi. Jésus. Dieu, ben, il est homme. Et l'homme est Dieu. Voilà. Voilà la définition de la religion en soi, plus parfaite. C'est pas... et donc, si on regarde bien, ben, finalement, si on, ben, finalement, ben oui, mais c'est l'homme, au fond, ben, il est infini. Puisque l'homme est Dieu. Voilà la définition, si on veut regarder la substance, le cœur de la religion la plus parfaite, c'est ça. C'est que l'homme est infini, puisque l'homme est Dieu, et que Dieu est homme dans le Christ. Voilà la révélation du Christ. C'est que, au fond, l'homme est infini, il y a une vie infinie dans l'homme, il y a quelque chose d'infini dans la vie humaine, dans l'être humain. Et au fond, toutes les manières... Donc, dont l'ontologisme avant, Descartes, Malebranche, etc., et même Hegel et tout, les protestants, les catholiques qui ont laïcisé, ont parlé au fond de la religion chrétienne, eh bien, c'est faux. Finalement, c'est faux, parce qu'ils disent, quoi? Ben, que la religion révèle, et c'est le solennel dévoilement des trésors cachés de l'homme. Voilà, ça, sa petite... phrase qu'il faut connaître par cœur de Feuerbach. La religion, c'est le solennel dévoilement des trésors cachés de l'homme. C'est symbolique, le christianisme. C'est un symbole. Dieu s'est fait homme, c'est symbolique. Bon, c'est historique, le Christ, mais la religion en a fait un symbole de ce que l'homme est en réalité. Ça n'existe. Il attaque le point de vue, c'est au point de vue, donc, vous voyez, de la définition de l'homme. Et puis, alors, donc, quand vous dites que l'infini vient de Dieu, eh bien, vous aliénez l'homme de sa plus grande dignité. Et c'est de là qu'après de Feuerbach, il va y avoir les 7 idéologies athées qui montrent que la religion, c'est l'opium. C'est l'aliénation de l'homme. Les 7 idéologies athées découlent directement de Feuerbach. C'est ce principe-là. Alors, d'où vient cette notion d'infini? Vous voyez, ça a l'air de rien, mais cette histoire... Quand vous recevez une grâce de lumière dans l'oraison, dans la prière, vous voyez tout de suite, si c'est une grâce qui vient de Dieu, que ça vous met tout de suite dans l'infini. Ça vous met dans quelque chose qui ne s'arrête pas. Tandis que l'Immaculée, elle, je vous signale, quand elle faisait oraison, dès qu'elle recevait une lumière de Dieu, le Verbe s'est fait chair, elle était dans son néant. C'est le contraire. Elle percevait que du néant. Ce que dit Sainte Catherine de Sienne, d'ailleurs. Avant d'être, il y a une odeur. Quand je suis dans l'être, dans la réalité de ma vie, je n'ai qu'une odeur de non-être. Parce que je viens du non-être pour être. Plus je suis proche de la Créateur de Dieu, plus je suis proche du non-être. J'existe plus. C'est extraordinaire, ça.
Alors vous voyez bien que d'où ça vient, et ça je voudrais quand même, dommage que je n'ai pas de tableau parce que je vous aurais mis au tableau, mais à l'origine, cette notion d'infini, le premier en théologie qui parle de la notion d'infini, c'est saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, il traite le traité donc de Dieu, il démontre l'existence de Dieu par une démonstration philosophique et théologique. Et puis après, il essaie de voir quels sont les attributs divins. Une fois que j'ai touché l'existence de l'être premier, que je le touche avec mon intelligence, que je vois que je suis en totale dépendance de lui, je mets ma vie en totale dépendance de lui, je vois que ma vie est un néant, donc aussitôt être emporté sous cette dépendance totale, et mon intelligence du coup est libre. Juste avant l'ascension, il est écrit dans l'évangile de Saint-Luc, Jésus ouvrit à ses apôtres le nous, l'intelligence, les significations de l'écriture. Oui, pour la prochaine fois. Jésus ouvrit l'intelligence au sens de l'écriture et après il monte au ciel. C'est quand même assez extraordinaire, ça. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans l'intelligence. Elle s'ouvre à l'obscurité la plus totale par rapport à sa lumière propre, naturelle, et elle rentre dans la lumière incréée de Dieu. L'obscurité s'est faite sur toute la terre. L'obscurité s'est faite sur toute la terre. C'est quand même extraordinaire, ça. Cette parole qui se fait quand Jésus commence à être arraché à notre monde. Sur la croix, hein, que Jésus est arraché à notre monde. Non, c'est rien. Une fois que vous êtes, votre intelligence touche Dieu dans cette espèce de ténèbres, que ça ne correspond plus à aucune de nos expériences, la première chose que saint Thomas découvre en Dieu, une chose qui est impossible pour nous de découvrir par notre propre intelligence, sauf si on fait cet acte d'adoration contemplative, de sagesse, le premier attribut qui est découvert, c'est qu'il n'y a aucune composition en Dieu. Dieu est simple, la simplicité. Quelle est la première chose que je découvre en Dieu ? C'est la simplicité. C'est la simplicité. Si vous priez Dieu et que la première chose que vous découvrez en Dieu, c'est la lumière, c'est que c'est psychologique. Dites-vous toujours ça. Si la première chose que vous découvrez en Dieu, c'est l'amour, c'est que c'est psychologique. Ça n'est pas vrai. On découvre simplement que Dieu est simple, la simplicité. Une simplicité. Il existe d'une manière totalement simple. C'est simple, il n'y a aucune composition en Dieu. Quand il, par exemple, quand il fait un acte d'amour, c'est ça, c'est son être. Quand par exemple je t'aime, quand je te parle, hein, c'est quand même différent, les paroles que je prononce et moi. Tandis que quand Dieu parle, sa parole, c'est le Verbe, c'est Dieu. Quand je prononce une parole, ma parole et moi, c'est pas pareil. Tandis qu'en Dieu, tout ce qu'il fait, le moindre acte qu'il fait, c'est lui. C'est son être. Tout le bien qu'il fait, c'est lui tout entier.
Esprit Saint.
En lui, c'est ça. Il n'y a pas... sa nature divine, c'est son être. Tandis que moi, ma nature humaine, c'est pas mon être. La preuve, c'est que la nature humaine, tu l'as aussi. Et donc, ta nature humaine que tu as, c'est pas mon être. Dans l'homme, notre essence, la nature humaine, et notre existence, c'est pas la même chose. Tandis qu'en Dieu, l'essence et l'existence, c'est la même chose. La vie en Dieu, c'est son être. Tandis que ma vie à moi et mon être, c'est pas la même chose. Très important, ça. Pour faire un acte d'adoration,
Parce que si je confonds l'être et la vie, je me fais Dieu. C'est ça l'ontologisme. C'est l'idolâtrie. Je m'idolâtre moi-même. Et du coup, je ne suis plus capable de faire un acte d'adoration. Puisque l'acte d'adoration commence en disant, voilà, je vis, j'ai la vie en moi. J'ai de la vie, j'ai une âme spirituelle. J'ai une âme, j'ai vie, je vis, j'aspire, je vis. Ah, j'existe aussi. Pas du tout pareil. Pas du tout pareil, j'existe. J'existe. L'être. C'est totalement différent, ça. C'est grâce à l'esprit que je découvre l'être. C'est grâce à l'âme que je découvre la vie. Mais mon âme ne peut pas atteindre Dieu. Ma vie ne peut pas atteindre Dieu. C'est impossible. Ce sera possible qu'au ciel. Mais le fait que j'existe, oui, l'être est différent de la vie. Le fait que j'existe, oui, parce que quand je vois que j'existe, ça, là, je dépends de Dieu. Du point de vue de la vie, je dépends de beaucoup de choses. Ma vie est composée de beaucoup de choses. En Dieu, aucune composition. Il est simple. Il existe. C'est la simplicité. Et le premier attribut qu'on découvre en Dieu, n'oublions jamais ça, hein, c'est la simplicité. Dieu est très simple. Hein? T'es d'accord? Dieu, c'est simple. C'est simple. C'est pas compliqué. Le Père Patrick est très compliqué. Et les petits gris, encore plus, tu vois. Et moins on y comprend, plus c'est compliqué. Mais Dieu, c'est simple. Dieu, c'est très très simple. Le deuxième attribut, comme il est très très simple, c'est qu'il est parfait. C'est la perfection. Sa simplicité est parfaite. Et comme sa simplicité est parfaite, c'est une perfection absolue dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de l'intelligence, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de la vie, dans l'ordre de l'acte, dans l'ordre de l'existence, dans l'ordre de la nature, dans l'ordre de l'essence, dans l'ordre du temps, si vous voulez, dans l'ordre de l'essence. Perfection, perfection. Et du coup, jaillit cette perfection, la surabondance et la bonté, troisième attribut. Et c'est seulement en quatrième place que saint Thomas dit que Dieu est infini. C'est pas en premier. Alors, j'ai pas envie de vous décortiquer quoi que je pourrais le faire pour vous, justement, parce que la doctrine, vous commencez à comprendre, là, ici, la doctrine de l'Église, somme de saint Thomas d'Aquin, docteur principal de l'Église, catéchisme de base de l'adulte, béaba. Béaba, donc je devrais vous le faire. Et si je vous donnais la doctrine apostolique, que l'Esprit Saint a inspiré à l'Église, puisque saint Thomas, c'est celui qui donne la note hein, pour la foi. Si vous n'êtes pas dans la note de saint Thomas, vous n'êtes plus dans la doctrine. Pas compliqué. Saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur. Quand on rentre avec lui dans le mystère de la foi, on est sûr d'être dans la doctrine. On ne s'est jamais réclamé de saint Thomas pour une erreur de doctrine. Jamais. C'est la doctrine de l'Église. C'est extraordinaire, saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin, quand on lit saint Thomas d'Aquin, alors là, on est dans les ténèbres. C'est pas lumineux du tout. C'est remis à notre intelligence. Oh, je préfère avoir la foi en disant, oh, mais je comprends Jésus, tu vois. Tu comprends? Rien. La foi implique les ténèbres. C'est extraordinaire pour nous, comme le traité, la théologie, la doctrine infaillible de l'Église, le magistère du Saint-Père, implique cette obéissance de l'intelligence. Et comme on est rebelle à l'intelligence du Saint-Père, pourquoi on est si rebelle au pape, hein? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas supporter le pape? Parce que notre intelligence obéisse, c'est contraire à sa nature. C'est la nature de la volonté du cœur d'obéir. Mais que l'obéissance s'applique à l'intelligence, c'est une rébellion. Mais le traité de saint Thomas d'Aquin, c'est prodigieux. Tu rentres là-dedans, ça y est. Tu es libéré de toutes les idéologies. Terminé. Il ne reste plus que les ténèbres de la foi. La nuit. Et du coup, tu touches Dieu en pleine connaissance. C'est-à-dire en pleine ténèbres. continuer ça. Toujours, toujours, à chaque fois qu'on a compris quelque chose du mystère de Dieu, du mystère de Marie, du mystère de l'Église, du mystère de notre propre mystère, toujours sortir de là. J'ai rien compris, toucher Dieu dans les ténèbres. C'est le problème, les anges, ça a été pareil, je vous le disais. Les anges, c'est extraordinaire pour les anges. Seulement les anges, ça s'est fait en un seul instant. Tout le traité de théologie, théologie scientifique de saint Thomas, tout le traité pour les anges, Lucifer, etc., leur a été donné en un seul instant. C'est hyper, vachement intéressant pour les anges. Oh, en un seul instant, tous les traités de théologie, tous les temps et tous les dieux jusqu'à la fin du monde, en un seul instant, ça leur a été donné. C'est vachement intéressant. Et pour l'ange, c'est... mais en un seul instant. Mais leur intelligence, il fallait obéir à ça. Alors que l'intelligence, c'était... Il faut saisir à quel point l'objet de la foi est si contraire à l'intelligence créée. Eh bien, de la même manière pour nous, la doctrine de l'Église est l'obéissance au pape, l'obéissance à son magistère. C'est quelque chose de rude pour l'intelligence. C'est pour ça qu'il faut absolument, et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, hein, pour rentrer dans la doctrine de l'Église. Ah, c'est si facile de rester dans son fauteuil en disant « Moi, je fais oraison. Oh. » Lumière, lumière, lumière. Ah. New Age, New Age, New Age. Ah. Je nage, je nage. Je nage dans la mer. Là. Non, non, non. Le royaume de Dieu appartient aux violents, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est Jésus qui le dit. Oui, sortir faire violence à son intelligence. L'intelligence qui est l'éperon, le fer de lance de l'orgueil de Lucifer. C'est l'éperon, le fer de lance de l'anéantissement de l'Immaculée. Parce qu'elle fait comme Jésus. Le Verbe de Dieu qui est lumière en Dieu s'est anéanti dans la kénose. Nul n'est descendu du ciel. Sinon, ni il n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel. Si notre intelligence ne descend pas dans ces ténèbres, elle ne rentrera pas dans la très sainte Trinité. La foi et les ténèbres, ça va ensemble. Donc ne jamais s'arrêter au mystère de Marie tel que nous le comprenons. Essayez de rentrer dans quelque chose. Je dis ça, vous vous sentez bien que c'est rhétorique ce que je vous dis là. C'est pour vous préparer. Rentrer dans le mystère de Marie de manière que tu sois pas habituel pour nous. Dur, dur. C'est encourageant pour la première. Mais hyper intéressant. Parce que notre foi, du coup, va pouvoir s'épanouir dans le cœur immaculé de Marie. Pas dans la sensiblerie, vous comprenez, mais dans le cœur immaculé de Marie, dans l'amour totalement immaculé, substantiellement pur, dans sa dimension incréée de Marie. Parce que le cœur de Marie, c'est un mystère. C'est un mystère. Et il va falloir petit à petit le comprendre. Là, vous comprenez bien que oui, donc on disait, saint Thomas d'Aquin dit que l'infini découle de la perfection. Dieu est parfait. Et la perfection découle de la simplicité. Oui, quand vous faites oraison, Dieu existe. Mais oui, il existe, bien sûr. Du coup, vous sentez bien que vous... Enfin, vous ne sentez pas, mais vous voyez que vous n'existez plus, justement. Votre vie, c'est le fait que vous existez. Votre vie, vous n'y faites plus attention. Ce que vous vivez. Votre vie est dans la ténèbre. Et du coup, elle fait comme un... Elle s'évapore, comme Jésus à l'ascension. Hop! Elle devient légère, tandis que quand on n'adore pas la vie, c'est lourd, les mecs! C'est opaque! Mais qu'est-ce que je souffre? Qu'est-ce que je suis malheureux? Non. Pourquoi est-ce que mon Dieu me... Ah. Pourquoi est-ce que mon Dieu me fait tant de mal?
pourquoi est-ce que mon Dieu me casse comme ça, moi et pas les autres, vous entendu? C'est pas vrai, enfin. On sent bien que c'est pas vrai. Dès qu'on adore, on voit que c'est pas vrai. Ça, c'est une erreur. Et une fois que vous touchez le bon Dieu, à ce moment-là, rentrez dans cette simplicité. Et cette simplicité, précisément, va nous faire rentrer de plus en plus dans cette disposition de l'intelligence pour comprendre par la foi le mystère de Marie. Cette simplicité nous fait rentrer dans la perfection de Dieu. Et Marie, c'est la créature parfaite. Et si Dieu est infini, d'après saint Thomas, c'est pas parce que c'est tout le temps, c'est pas une lumière infinie. La lumière, c'est pas l'amour. Non. Comme j'ai vu, j'étais chez des médecins, des chirurgiens l'autre jour, pour un baptême, bon, peu importe. Et alors les médecins, ils étaient là, c'était des chirurgiens de Marseille, de machin. Ils me disaient, mais là, Dieu, c'est la matière, quoi, il n'y a pas de doute. C'est la matière, pourquoi? Parce que la matière, on est en train de découvrir en ce moment, grâce au microscope, grâce à la science, on est en train de découvrir les particules les plus élémentaires de matière au-delà du quark, ce sont des vibrations, c'est de la lumière. Donc ça y est, on a touché le terme extrême de la matière, le point limite. Et on s'aperçoit donc que la matière qui est sans aucune détermination comme ça, parce que si elle est là, le quark il est en même temps ailleurs, il est en même temps partout, eh ben forcément on constate que la totalité, la source de tout ce qui est dans la nature, c'est cette matière. Donc la matière c'est Dieu, tu sais. C'est du chirurgien, vous voyez? Faites attention quand vous allez à l'hôpital et que vous faites découper par des gens parce que le couteau il fait de la matière. Donc c'est Dieu qui vous découpe. Donc faut pas. Vous voyez, vous sentez, pourquoi est-ce qu'il disait ça? Bon, ben, parce qu'il était pris complètement dans l'ontologie. C'est la matière, parce que la matière a quelque chose d'infini. Il y a quelque chose d'infini dans la matière. C'est une indétermination. La matière est possible, c'est possible pour la matière de prendre toutes les formes. Forme humaine, forme divine, forme matérielle, forme cosmique, forme vibratoire, forme... La matière est possible à toutes les formes, celles qu'on connaît et celles qu'on ne connaît pas. Celles que Dieu aurait pu faire, et qui n'existeront jamais. La matière est infinie, la matière. C'est le seul être que le scientifique constate être infini. Donc il dit, mais la matière, c'est la matière. Comme Averroès, comme Lénine, il disait ça, type... Alors il me l'a dit 4 fois. Je dis, ça fait la 4e fois que vous me le dites, docteur. C'est donc la 4e fois que vous dites une connerie. Oui? Bon. Mais pourquoi? Parce qu'il était dans l'anthologie. C'est pour vous dire que du plus haut au plus bas, vous voyez, le plus bas c'est quoi? C'est nous. Parce que nous les pauvres, nous on rampe. Hein. On n'est pas chirurgiens, on n'est pas les grands trucs. Non. Mais nous aussi, ah, Dieu, c'est infini, oh là là, je suis infiniment pris par l'amour de Dieu, ça y est, c'est Dieu. Pas de peau. Non, mais pas lui. C'est extraordinaire. C'est pas lui. C'est autre chose. Alors, si Dieu est infini, c'est en raison, c'est son être. C'est le fait, c'est son existence, ça veut dire simplement son être à lui. Il n'est pas reçu par quelqu'un d'autre. Le fait que nous existons, c'est un être limité que nous avons, nous. Nous existons de manière limitée. Pourquoi? Parce que nous sommes reçus de Dieu, de l'être premier. Parce que Dieu est un être qui est dont l'existence n'est reçue par personne d'autre que lui-même. S'il subsiste, sa subsistance, il la tient de lui-même. C'est celui, on appelle ça ipsum esse subsistens. C'est celui qui subsiste lui-même dans son acte par lui-même. Tandis que toi, ta subsistance dans l'ordre de l'être, tu ne la tiens pas de toi. C'est pour ça que ton être est limité. Et comme ton être est parfait de ce point de vue-là,
C'est une perfection dans l'ordre de la subsistance, puisqu'il tient cette subsistance de lui-même. Alors du coup, il n'y a aucune limite dans la manière d'exister. Ce qui n'est pas du tout pareil. C'est négatif. Sa manière d'exister, il n'est pas reçu. Autrement dit, il n'y a pas, je m'excuse, c'est peut-être compliqué, mais après, je vous assure, ce sera un peu plus simple. Bon. Puisqu'il n'est pas reçu. Toi, par exemple, tu existes, mais ton existence, elle est reçue de Dieu, de ton Créateur. Tandis que Dieu, lui, il subsiste par lui-même. Il tient son existence de lui-même. Ça va? Donc, il n'y a aucune limite. Parce que la subsistance, c'est la racine même de l'être. Donc, il n'y a aucune limite dans sa matière d'exister. Toi, tu as une manière d'exister qui est limitée. La preuve, c'est que tu la tiens de quelqu'un d'autre. Tu dépends de lui, du point de vue de l'être. C'est grâce à ça que tu peux faire un acte d'adoration. Parce que tu dépends actuellement de lui. Dieu ne dépend que de lui-même. Et tu comprends tout de suite que du coup, sa vie intérieure est parfaitement spirituelle, authentique. Tandis que si toi, tu mets ta dépendance par rapport à ta vie, tu sors de la réalité. Que tu dépends fondamentalement de Dieu. Ça va? Parce que lui, il tient sa subsistance de lui-même. Donc, s'il retourne à sa subsistance, dans une espèce d'adoration de lui-même, entre guillemets, c'est sa vie, ça. C'est vrai, il s'adore. Le Père adore le Fils. Il s'adore, il se donne. Ils dépendent totalement l'un de l'autre, dans une dépendance qui va jusqu'à la subsistance. Alors s'il est parfait dans sa manière d'exister, perfection, alors du coup, il n'est pas reçu. Il n'y a aucune limite dans sa manière d'exister. Ce qui montre bien que quand saint Thomas d'Aquin dit que Dieu est infini, c'est pas par rapport à sa vie, c'est pas sa vie qui est infinie, c'est pas vraiment son amour qui est désigné, c'est pas sa lumière qui est infinie. Parce que, à proprement parler, son intelligence, sa lumière est parfaite, elle n'est pas infinie. Infini, c'est négatif, ça veut dire qu'il n'est pas reçu par quelqu'un d'autre. Et donc, comme il n'est pas reçu, il n'y a pas de concept dans notre intelligence par rapport à l'infini, par à l'être infini, il n'y a pas de concept. S'il n'y a pas de concept, il n'y a aucune possibilité pour notre intelligence de toucher quelque chose de réel par rapport à l'être infini. Et c'est ce qui s'est passé après saint Thomas. C'est Duns Scot, un franciscain, qui a dit, Dieu, sa première attribut, c'est que c'est l'être infini. Il est infini. C'est pas sa perfection qui est infinie. C'est l'être de Dieu qui est infini. Duns Scot. C'est quand même assez extraordinaire que Duns Scot dit ça, c'est le premier attribut de Dieu. Et du coup, Descartes va mettre ça en philosophie. Duns Scot, c'est un franciscain, donc c'est un théologien, c'est une espèce de mystique. Il a été béatifié quand même par le Saint-Père, par miséricorde, mais... Il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 ou 3 ans, mais... Descartes est l'héritier immédiat. Vous savez bien que le grand péché de l'Occident, c'est Descartes. Je me rappelle quand j'étais en 75 à Rome, on était une centaine de milliers de personnes, et chaque nation représentée devait dire le péché, demander pardon au Saint-Père et à Dieu. Et le père Jean-Michel Garrig, qui représentait les Français, il devait être, je sais pas, 20 ou 30 000, a dit, nous demandons pardon à Dieu, pardon au monde, pardon à l'humanité, pardon à l'intelligence de l'homme, à cause de Descartes. Descartes, le cartésianisme. Descartes, lui, il met ça dans la pensée humaine, et il dit que l'être, l'idée d'infini nous permet de poser Dieu. C'est grâce à l'idée d'infini qu'on peut atteindre de Dieu. Il y a l'idée d'infini et la liberté pour Descartes. C'est à partir de l'idée d'infini. Mais l'idée d'infini, pour nous, c'est une quantité, c'est positif. Tandis qu'en Dieu, c'est négatif. Vous voyez, ça ne va pas du tout. Et à partir de là, il va y avoir donc Feuerbach qui va dire que c'est l'infini qui permet de poser ce que c'est que l'homme. Il va dire, non, c'est pas vrai. Donc il y a 2 grandes ontologies. Les 2 ontologies parlent de l'idée d'infini. L'idée d'infini, vous voyez bien que c'est imaginatif. C'est l'imaginaire qui va à l'infini. L'esprit ne va pas à l'infini. L'esprit va à son objet. L'esprit va à la réalité. L'esprit va, par exemple, tu vois, si je t'aime infiniment, si un jour tu rencontres un petit fiancé qui te dit « Je t'aime infiniment, infiniment, infiniment », ben, te marie pas avec lui. Parce que ça, c'est passionnel, ça, tu vois. C'est l'imaginaire qui dit l'infini. Tandis que si ton petit fiancé dit « Ben voilà, attends, laisse-moi te regarder, laisse-moi te toucher. Il n'y a que toi, quoi, qui existe pour moi. Ah, c'est mieux. C'est vrai. C'est mieux. C'est objectif. Cet objectif, il n'est pas en train de se mousser. Quand il dit l'infini, c'est lui qui se mousse. On voit bien, on sent bien ces choses-là. Par rapport à Dieu aussi, il faut atteindre le fait qu'il existe. Et que je dépends, moi, dans le fait que j'existe lui. À ce moment-là, tout devient simple. La grande simplicité des enfants de Dieu. Oui. Oui. Là, c'est tout à fait évident. Parce que si je pars de l'infini, je pars de l'imaginaire. Et donc, tout ça, ça va devenir, ma relation va devenir affective. C'est ça le problème de nos 4 siècles de pédagogie, d'université, de médias, de livres d'histoire, etc., etc. On est imbibé de ça, de cet cartésianisme, que tout est à partir de la méthode. Et du coup, on cherche l'efficacité pour tout, et à l'infini, et le progrès ira à l'infini comme ça. Et on tombe dans l'évolutionnisme, infiniment, ça va croître, cette progression de la vie va devenir infiniment parfaite, jusqu'à ne plus devenir qu'esprit. Thésard de Chardin, par exemple, en est un des aspects. Mais ça, c'est imaginaire, c'est affectif, ça n'est pas réel, ça n'est pas vrai. Parce qu'il n'y a pas de concept d'infini. C'est négatif. Donc c'est négatif, ça ne correspond pas à une réalité. Donc il n'y a pas de concept. Donc notre intelligence ne peut pas être mue. Notre intelligence ne peut pas être agie à partir de l'idée d'infini. Et tout notre Occident, c'est à partir de l'infini. Et donc on tombe dans l'imaginaire, on tombe dans l'affectif. Mais notre intelligence ne perçoit plus l'autre, ne se perçoit plus elle-même, ne perçoit plus Dieu à partir de là, c'est sûr. Voilà. Alors, c'est sûr hein, que c'est pour ça que Feuerbach, ben, qui va engendrer tout le conditionnement dans lequel on est aujourd'hui, va critiquer très fortement ça. C'est très intelligent, Feuerbach, il va dire, il va faire exploser ça en disant, mais non, ça va pas. Redonnons à l'infini sa position juste, et attribuons-la à l'homme. Tout ce que la religion dit de Dieu, c'est pour faire comprendre ce qu'est l'homme. L'homme est infini. Et libérons donc l'homme de la prison dorée de la religion ou des métaphores ou de Dieu. Gardons la religion, enlevons Dieu. Grâce à la religion, je comprends que l'homme est infini, et je suis infini, je suis un saint, je suis le responsable du monde, je suis la lumière du monde. Et du coup, ah oui, mais le chrétien aussi fait comme ça, la manière de penser catholique souvent est comme ça, et libérons-le de cette prison dorée. Et pour avoir la vraie dimension de l'homme, l'homme c'est un être infini. Bon, en réalité, vous sentez bien que derrière il y a une confusion donc, entre le point de vue donc de la vie et de l'être. Et ceci, c'est quand même très très important de comprendre que l'homme, en réalité, puisque Marie ce sera la femme, hein, donc, la seule créature humaine parfaite, c'est Marie. C'est pour ça que je fais ça, parce qu'il faut voir où Marie est simpliciter perfecta. Elle est parfaite absolument parlant. L'homme, dans sa structure en métaphysique, bon, ça je dis, c'est-à-dire en philosophie, celle de la philosophie qui essaie d'aller le plus loin possible en étant sûr de ce qu'elle annonce. Il y a des philosophies qui disent n'importe quoi. Mais quand la philosophie est sûre de ce qu'elle touche, ça s'appelle la métaphysique. Alors on s'aperçoit que l'homme, il a sa structure en lui-même. Il subsiste dans l'ordre de l'être. Au niveau de la cause formelle, l'homme, formellement, il est structuré en lui-même. Il subsiste dans l'ordre de l'être. Il est individué. Nous sommes une personne. C'est vrai qu'au niveau de la cause formelle, en métaphysique, on voit bien que l'être de l'homme subsiste par lui-même. Subsiste. L'être de l'homme subsiste, en tout cas. Pas par lui-même, mais il subsiste. Et en même temps, si on regarde dans une vision de sagesse, ayant découvert l'existence de l'être premier, donc dans la lumière non plus de la cause formelle, non pas l'homme dans sa structure, mais l'homme dans sa finalité, il découvre, par le point de vue de l'esprit, qu'il est totalement achevé dans un autre que lui-même. À l'intérieur de toi, tu peux trouver une certaine infinie, une certaine perfection, une certaine simplicité, puisque ton être subsiste. Ton être subsistera toujours. Tu peux le percevoir même au niveau de la vie d'ailleurs, ça. Ton âme est immortelle. Ça va? Donc il y a une dignité de l'homme assez extraordinaire au niveau de la cause formelle. Comme forme. L'être de l'homme a une forme, une structure, qui fait qu'il est. Il apporte en lui-même sa propre détermination. Heureusement. Sinon, quand il donne, il ne donnerait rien du tout. C'était pas ça. Il ne donnerait pas grand-chose, en tout cas. Parce que quand tu donnes deux colombes, ça ne vaut rien du tout, deux colombes, de donner deux colombes. Ce qui compte, c'est ce que ces colombes désignent. Ils désignent l'agneau immolé, ils désignent Jésus, qui est la première colombe. Une première manifestation de l'Esprit Saint, de l'amour de Dieu. Et la deuxième colombe, qui est l'Immaculée, les deux sont offerts dans la consécration de l'homme et du Fils de l'homme. Mais la colombe, c'est rien du tout. C'est l'homme qui, vous voyez bien, qui se structure, qui a sa propre détermination lui-même. La détermination, donc, c'est de l'ordre de la forme. Au niveau de la cause formelle, l'homme se tient par lui-même. Toi, tu te tiens par toi-même. T'as une dignité extraordinaire. C'est pour ça que le Saint-Père a fait une encyclique sur l'évangile de la vie. L'homme se tient par lui-même. Il est sacré. Et on doit respecter sa vie. On doit respecter son existence. Mais du côté, pourtant, en lui-même, ce n'est pas en lui-même qu'il a sa finalité. Donc du côté, si vous voulez, donc de la vie, de l'âme, il a sa détermination. Et en même temps du côté de l'être, puisqu'il subsiste, hein, c'est un être subsistant. On subsistera toujours, on existera toujours. Même après ta mort, tu continues d'exister. C'est génial. Heureusement. Ce que disait le vieux père Emmanuel, disant, moi, mon fils, de toute façon, si après la mort, je meurs, et que je me retrouve en enfer, ce que je mériterais bien, en train de se dire. Ma complètement égale, je serai heureux. Je serai heureux comme tout. Pourquoi? Parce que je continuerai d'exister. Ah, le fait d'exister, je trouve ça extraordinaire. Oui. Oui. Ça, voilà, c'est un spirituel, ça, qui dit ça. C'est Saint Bernard disait ça aussi. Je continue, Seigneur, de vivre. Je sais, à un moment, il était convaincu qu'il serait damné. Parce que plus vous allez loin, plus vous constatez que vous n'aimez pas Dieu. Mais plus on est dans les ténèbres, il était sûr qu'il serait damné. Il dit, je suis heureux de pouvoir continuer parce que j'existe. Et continuer. C'est quand même assez extraordinaire. Ça. À ce moment-là, effectivement, quand vous êtes spirituel, vous voyez, votre vie est ce qu'elle est dans les ténèbres, quelque part. Et du coup, vous commencez à toucher la réalité. Vous adorez votre Dieu. Mais du côté de la fidélité, donc, c'est autre chose. En vous, vous avez une dignité extraordinaire, vous existerez toujours, et vous serez un homme, image, ressemblance de Dieu, saint, la sainteté sera en vous. Vous voyez, l'Immaculée. Et elle, qu'est-ce qu'elle ne devait pas dire de ce côté-là? La reine, la plénitude de grâce, l'épouse du Saint-Esprit, t'en compte. Elle ne pouvait pas dire quand même que non, c'était... Non, elle a sa détermination en elle-même, celle qu'on voudrait voir, justement. Quelle est la détermination qui fait toute la dignité de l'Immaculée Conception, qui fait tout son mystère, pour qu'on puisse la voir en pleine connaissance, c'est-à-dire dans l'obscurité de la foi. Vous voyez? Pas affectivement, pas imaginativement, pas sensiblement, pas sentimentalement, pas dévotionnement. Quoique, on peut garder ces choses-là. Mais ce qu'on voudrait, nous, c'est...
aller indirecto, directement dans le mystère de Marie. Parce que la foi nous fait atteindre les mystères de Dieu directement. Il n'y a que la foi qui fait ça. Mais je découvre aussi qu'il y a la finalité. Marie, en elle-même, n'est rien du tout. En même temps, c'est toute la grâce, toute la plénitude de grâce, toute la plénitude de sainteté, toute l'union de l'humanité avec l'Esprit Saint, elle est là. Et en même temps, ça, c'est rien. C'est nous. Sa finalité, donc, c'est autre chose qu'elle-même. Notre esprit montre que l'homme, nous sommes un être spirituel, notre vie spirituelle montre que l'homme, s'il a cette dignité totale en lui-même, eh bien, il est finalisé par un autre que lui-même. Il est achevé par un autre que lui-même. Au fond, il est infini quelque part, c'est vrai. Mais sa perfection est en dehors de lui-même. Parce qu'en Dieu, sa perfection est source de sa manière infinie d'exister. C'est l'inverse pour Dieu. C'est ce que dit saint Thomas. Petit résumé de saint Thomas. Et oui, alors vous comprenez qu'à ce moment-là, il faut que l'homme se dépasse tout le temps parce qu'il est esprit. L'esprit, vous voyez bien, ça dépasse la vie. Et c'est par l'esprit, par l'intelligence toute pure, que je vais pouvoir recevoir la possibilité par la puissance que Dieu a donnée dans son Christ de faire un acte de foi et de mettre mon esprit qui dépasse ma vie, de la plonger totalement à l'intérieur de Dieu, dans le mystère de Dieu. Au fond, vous voyez bien donc que l'ontologisme, ça confond la cause formelle et la cause finale, c'est ça, l'ontologisme. L'ordre d'intelligibilité, puis donc l'ordre d'exister. Et donc, il faut se réfugier donc tout ce que nous comprenons, l'ordre d'intelligibilité de Marie, nous allons essayer d'utiliser ça pour sortir de cet ordre d'intelligibilité, rentrer dans l'existence de Marie. Et c'est tout le problème. Comment est-ce qu'on va essayer de faire pour trouver ça? Ça va être un petit peu donc par le point de vue de la foi. Et vous sentez bien que la foi, il faut bien voir que la foi, ça ne doit pas être non plus complètement aride, sec. Notre amour, on n'est plus du tout... animé par notre foi. Et il y a deux erreurs qu'il faut bien voir. Et c'est en fonction justement de la très sainte Trinité. Saint Thomas, il montre bien qu'en Dieu, il y a une procession toute pure dans l'ordre de l'intelligence. Le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, est engendré par le Père. L'intelligence, le Père, Dieu le Père, voit. Est-ce que tu crois que Dieu le Père est aveugle? Tu penses que Dieu le Père est aveugle? Il voit tout. Est-ce qu'il se voit lui-même? Il se voit lui-même. Il se contemple lui-même. C'est d'accord? Dieu se voit. Et quand il se voit, il ne voit pas rien. Il ne voit qu'une partie de lui-même ou il voit tout dans lui-même? Il voit tout lui-même. Donc ce qu'il voit, c'est Dieu. Ça va? Eh bien, ce que Dieu voit, c'est le Verbe, le Fils de Dieu. Tu sais, quand on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Quand Dieu voit, c'est le Père. Et ce que voit le Père, et il voit Dieu, c'est Dieu le Fils. Tu ne savais pas ça? Ah ben voilà, ça c'est l'intelligence de Dieu. L'intelligence de Dieu voit Dieu. L'intelligence de Dieu voit Dieu. Mais c'est un cas seul Dieu. Parce que quand Dieu voit Dieu, il ne voit pas un autre que lui-même. Il se voit lui-même. Ça va? Donc Dieu le Père et Dieu le Fils, c'est un seul Dieu. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. D'accord? Ça, c'est drôlement fort! C'est drôlement fort, ça! Ça veut dire que l'intelligence de Dieu est simple, il se voit tout simplement. Parfaitement! Et du coup, comme ils sont deux, ils saignent! Il y a une beauté entre nous, ça tire! Il peut pas, plus, tu pourrais dire, plus Dieu voit Dieu, plus Dieu s'éloigne de Dieu. Ah non, c'est le contraire. Plus Dieu voit, ah, quand tu vois quelqu'un, ah, qui est tout, hop, tu comprends. L'intelligence, qu'est-ce qu'elle fait, l'intelligence? Elle attire.
grandir. L'intelligence, elle assimile. L'intelligence, elle grandit tout le temps par assimilation. Et tu vois, c'est pour ça qu'on fait attention. L'intelligence, si elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, à force d'assimiler, elle grandit encore. Il faut faire attention, elle risque d'être très totalitaire, hégémonique, et l'amour n'a plus aucune place. Il ne faut pas qu'il y ait que l'intelligence. Il y a aussi l'amour. Parce que pourquoi est-ce qu'on va regarder précisément le mystère de Marie et essayer de comprendre Marie? Mais c'est pour pouvoir l'aimer, mais vraiment. L'aimer vraiment, parce qu'on va regarder Marie à partir du Verbe de Dieu, à partir de Dieu. Regardez Marie à partir de Dieu, à partir de la lumière de Dieu, à partir de la vérité de Dieu. Je suis la vérité. C'est Jésus qui l'a dit. Donc à partir de la doctrine aussi, qui sort de la bouche de Jésus, à partir de la doctrine, le magistère, cette doctrine infaillible, le Verbe de Dieu donné pour les hommes, pour pouvoir rentrer dans le mystère. Alors ouais, ça c'est la première erreur. Première erreur, ce serait de dire, ben voilà, dans la très sainte Trinité, on appelle ça les pneumatomaques, n'est-ce pas ? Macédonius, première hérésie, une des toutes premières hérésies de l'ère chrétienne. Macédonius, les Grecs disaient, bon, ben d'accord, les Grecs c'est l'intelligence. Hein. Mettez l'intelligence, puis c'est tout. Ça c'est le gros problème de certaines personnes que je connais, n'est-ce pas ? Bon, je ne dis personne ici, bien entendu, c'est plutôt le contraire ici. Bon, là... c'est l'intelligence. Dieu voit Dieu, et alors, ça, Dieu est assimilé par Dieu, et du coup, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est extraordinaire. Mais l'Esprit-Saint, c'est un accident, c'est autre chose, c'est des énergies, quoi, ouais, c'est des énergies. Alors, il va y avoir un petit reste après dans la petite lutte entre l'Occident et l'Orient, les orthodoxes et les catholiques, avec l'histoire de Balaam et de Grégoire Palamas, comprenez ? L'Esprit Saint, les énergies. Quelque chose de... Non, non, l'Église, elle a dit, non, c'est pas vrai. L'Esprit Saint aussi est Dieu par lui-même, il subsiste aussi par lui-même. C'est une procession dans l'ordre de l'amour. Mais il y a eu des, comme, je crois que c'est Saint Basile qui a répondu au pneumatomaque. Saint Basile. Saint Athanase, lui, il a lutté contre l'arianisme. L'arianisme, c'était de dire, Jésus, c'est bien, c'est l'amour de Dieu pour les hommes, mais il subsiste pas dans le Verbe, il n'y a pas de lumière, hein, il n'y a pas d'intelligence, c'est pas l'engendré du, c'est pas Dieu qui engendre un Verbe pour se contempler lui-même. C'est pas Dieu, quoi. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est une image du Père. Mais c'est tout. C'est pas Dieu. Alors Saint Athanase dit, ouais, c'est pas vrai. Jésus est Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est extraordinaire, ça. Que Dieu s'est fait homme. Et on le voit, Jésus. Et du coup, on touche Jésus. Et du coup, on touche Dieu en pleine connaissance. Chaque fois qu'on fait ça. Oh, chaque fois que tu prends Jésus, tu touches Dieu. Pourtant, tu ne le vois pas. Et l'arianisme, vous voyez bien, ça, c'est une erreur terrible, ça. Parce que du coup, si tu ne peux plus atteindre Jésus par le point de vue de la lumière spirituelle, qu'il est comme Verbe, il ne reste plus que quoi ? Il ne reste plus que... l'amour, mais mon amour, ben, ce sera sans l'esprit. Ce ne sera pas par l'esprit que je vais l'atteindre. Forcément, si Dieu n'est pas lumière, verbe spirituel, si Jésus n'est pas le verbe de Dieu, le fruit de la contemplation spirituelle de Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, alors à ce moment-là, je vais atteindre Dieu par Jésus, mais ce sera symbolique, ce sera encore l'imaginaire, ce sera encore l'affectif. Et du coup, je vais atteindre Dieu... de manière affective, spirituelle. Et alors je vais écarter. À quoi on reconnaît un arianiste au niveau pratique ? Bon, au niveau, tout le monde ici est d'accord que Jésus est Dieu. Mais sur le plan pratique, non, Saint Thomas, c'est pas pour moi, trop compliqué. La doctrine, non, non. Je veux pas de ça. C'est trop compliqué, ça demande trop de... C'est trop contraire à ma spiritualité. Ah, hein ? La doctrine, contraire à ta spiritualité ? L'inquisition proche. Parce que si la doctrine est contraire à ta spiritualité, tu ne vas pas atteindre Dieu dans la très sainte Trinité en pleine connaissance. Ce ne sera pas par la foi.
ce sera par ton affectivité. Ce sera par ton imaginaire. Jésus, c'est infiniment, infiniment Dieu pour moi. Mais ce ne sera pas Dieu que tu atteindras. C'est par le Verbe de Dieu. C'est par le Verbe de Dieu. Et tout commence, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. La prochaine conférence, on va attaquer le mystère de Marie dans cette relation qu'elle a avec le Verbe. Et surtout en ce moment, vous comprenez. Bon, ça, c'était la partie la plus compliquée de toute la retraite, donc ça. C'est la partie la plus compliquée. Donc, ceux qui n'ont rien compris, courage, ça va? Mais, ça fait rien. Je vous affirme, prenez donc des papiers et notez. C'est important. C'est important. Ce que je viens de vous dire là est très important. Parce que ce que je vis de Dieu, il faut tout de suite que je vive dans l'action de grâce, bien entendu. Mais il faut tout de suite que du côté de la finalité, donc du point de vue spirituel, je comprenne que ce que je vis, aussi parfait que ce soit, aussi infini, aussi extraordinaire, aussi divin que ce soit, dans mon amour de Jésus, il faut tout de suite que ce soit relativisé à un autre que moi, à autre chose, c'est-à-dire au mystère, à ce que je ne comprends pas. Et c'est ce que je ne comprends pas qui est la réalité, ce n'est pas ce que je comprends. Et ça, c'est l'acte de foi qui fait ça. Et il faut absolument qu'on touche Marie, qu'on saisisse Marie, qu'on en jubile, qu'on a l'impression de tout vivre de Marie avec elle, et qu'une fois qu'on est là, eh bien, on saisisse et on s'approche de ce qu'on n'a rien saisi d'elle, et c'est à ce moment-là qu'on la saisira, par la foi. Il ne faut pas s'attarder à ce qu'on a saisi d'elle, parce que si on fait ça, on tombe dans l'imaginaire. Et à ce moment-là, c'est un péché contre la foi, et on est anti-Saint-Athanase, on est arianiste, on est arius. On devient arius quand on fait ça. C'est-à-dire, on devient ontologiste. On dit l'être infini, c'est moi qui l'ai. Et non, il n'y a que Dieu qui est parfait et qui est infiniment simple. C'est beaucoup plus simple que ça, Dieu. Et l'Immaculée Conception aussi. Et c'est pour ça qu'il faut que, petit à petit, on comprenne qu'il faut accepter ces ténèbres. Il faut les accepter. Et que ce soit pas par la volonté, hein. Comme ça, comme diraient les protestants. C'est par la volonté. Allez, je veux atteindre Dieu. C'est l'intelligence qui rentre dans sa finalité, dans quelque chose qui le dépasse, l'autre. Et ça, c'est très très fort de comprendre ça. La deuxième erreur, vous sentez bien, c'est les pneumatomaques. Donc c'est là-dessus aussi qu'il faudra insister surtout à la fin. C'est que le mystère de Marie doit faire que on doit finalement se mettre dans un nid. Et ce nid, c'est son amour à elle. Son amour. Le mystère de son amour. Elle a un amour qui est... On appelle ça le cœur immaculé de Marie. Mais vous comprenez bien que le cœur immaculé de Marie, il faut qu'on comprenne ce que ça veut dire du point de vue de la charité. Pas du point de vue de l'affectivité. De même qu'il faut comprendre le mystère de Marie par la foi, de même il faut comprendre le cœur immaculé de Marie par le point de vue de la charité. Je crois que c'est très important ça pour nous, qu'on vive surnaturellement de Marie, de manière théologale, c'est chrétienne si vous préférez. Mais sinon, on va faire comme les gens du New Age, hein. On dit la mère divine, la matrice universelle d'amour, de lumière et de vie. Les gens du Nouvel Âge, c'est ça qu'ils font. Et c'est tout à fait évident. Là, je voudrais, en terminant, citer une parole du Père Dehaut, qui était l'oncle du Père Marie Dehaut et du Père Thomas Philippe. Je trouve ça bien. Voilà. Il dit, il faut que, avec la grâce du Christ, qui est beaucoup plus forte, que la grâce qui a été donnée aux anges de Dieu. Il faut qu'avec la grâce du Christ, nous puissions connaître et accepter la nature humaine telle qu'elle est. Donc les rêveries, les révoltes, les murmures, les sensibleries, les sentimentalités, accepter
de regarder ça en face en nous, la nature humaine telle qu'elle est, tout cela, ces sentimentalités, ces sensibleries, ces rêveries, qui prêtent à rire aux ennemis de l'Église, aux ennemis des chrétiens, Feuerbach, mais tous les autres, et prêtent à rire, et prêtent aussi à pleurer aux amis de l'Église. Parce que quand on voit ça, on pleure. Des gens qui disent, mais j'ai la foi, ouais, je crois, et puis on constate que la foi ne se communique pas à ses propres enfants, par exemple. Alors, faire la différence entre la sincérité et la vérité. Accepter ça, la fausse mystique. L'Église, elle fait toujours la chasse aux dévotions absurdes. Et la plupart des gens, manent in sensu, demeurent dans la sensibilité, au niveau des sens, même leurs religieux. Alors du coup, c'est l'irascible qui domine, c'est l'agressivité qui domine. C'est pas du tout la disponibilité. C'est pas l'ouverture. Comme la plupart restent sous les sens, et lorsqu'il reste sous les sens, eh bien, il reste soumis à l'influence de tous les agents cosmiques. C'est-à-dire tout ce qui traîne dans les airs. Les puissances de l'air, les démons. Si tu atteins Dieu et que tu ne veux pas l'atteindre par la foi, donc à travers la doctrine de l'Église, tu resteras dans le sensible. Et tu tomberas dans les dévotions absurdes. Et tu diras, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Et tu vas exaspérer. Et tu vas ridiculiser l'Église. Tu vas faire pleurer les amis de l'Église. Cette parole-là, ici, du Père de Haut, je la trouve très forte. Et tu vas t'énerver toi-même, en plus. Parce que, comment est-ce que tu comprends de Dieu? C'est ça le plus important. C'est ça qui est le plus important. Alors du coup, tu vas défendre ton beefsteak. Disant, moi, je vais pas mettre mon drapeau dans la poche. Imbécile. T'as rien à voir. Ce que tu as compris, c'est justement ce qu'il faut laisser pour atteindre Dieu dans sa vérité. Si t'as pas compris ça, c'est que tu es pas spirituel. Tu restes au niveau de l'imaginaire. C'est nous, ça. Ça, c'est l'examen de conscience. De la foi. Et faire cet acte de foi. Voilà. Ah oui, Seigneur, je sens que tu es là, je vois que tu es là, je crois que tu es là. Vous voyez, par exemple, mettez devant l'Eucharistie. Ah, Marie, je me consacre à toi, mais bon, d'accord, j'y comprends rien, mais comme j'y comprends rien, je te prends encore plus au bout hein, pour avoir du punch. Hein. Bon. Hein. Et quand vous en êtes là, ça y est, j'ai fait mon truc avec Marie, ça y est, je. Bon. Non, restez pas là. Dites. Je vais plonger mon esprit, la tête la première, commendo spiritum meum, je remets mon esprit entre tes mains. Tout ce que je ne comprends pas dans l'obscurité, c'est ça le mystère de Marie. C'est autre chose, tout à fait, de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai ou de ce que je n'ai pas. Et il faut que mon acte de foi pénètre là. Et c'est par un acte que je le fais. Mon intelligence doit plonger dans ce qui est tout à fait autre que ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, ce qui m'énerve pas. Ça n'a rien à voir. Est-ce que j'ai ou est-ce que je n'ai pas? Rien. Il faut s'habituer, si vous voulez, à faire ces actes de foi, là, vous voyez? Sortir de nous. C'est ça la perfection. C'est pour ça que l'homme est une âme spirituelle. C'est pas seulement un vivant qui a sa détermination lui-même, mais il a une âme spirituelle, la dimension d'esprit fait qu'il a une finalité qui est tout autre que lui. Et Marie tout autre que nous. C'est notre sœur, mais elle est tout autre que nous. Et voilà, c'est pour ça que je voudrais justement tomber. Quand on tombe ni dans le pseudo-amour avec la peur de la doctrine, la peur du verbe, voyez bien,
un pseudo-amour de Marie qui ne sera pas surnaturel, qui ne sera pas par la foi. Donc il faut dégager ça. Voilà. Et puis en même temps, il faut sortir également de l'intellectualisme. C'est hyper compliqué. Ce sera compliqué quand même, je vous préviens. Parce que forcément, il va falloir. Ce sera compliqué parce qu'il faut dégager toutes les complications qui sont dans notre tête. Et qui est un peu après la simplicité, si vous voulez. Mais il faut qu'on saisisse ce qu'il y a de plus simple dans le mystère de Marie, sa relation avec le Verbe. Alors à ce moment-là, quand on verra sa relation avec le Verbe, on va comprendre comment on peut atteindre et l'aimer vraiment. Elle. L'aimer elle. À ce moment-là, on va comprendre ce que c'est que le cœur immaculé de Marie. Et se consacrer à ce cœur immaculé. C'est important. Puisqu'il n'y a de que ceux qui seront consacrés à ce cœur immaculé-là, c'est pauvre. C'est pauvre pur. C'est uniquement par eux que tout l'athéisme, que toute la victoire du dragon, que toutes les iniquités, que tout va être vaincu. La grande victoire de la femme enveloppée de soleil. C'est uniquement par les pauvres. Alors les savants, les intelligents, les culturés, les chirurgiens, les gens qui ne louchent pas, etc., etc. Bon, oui, ça y est, ils comprennent maintenant que l'homme, c'est merveilleux, qu'il faut être lui-même. Et tu découvres que tu es toi-même, et que tu es jusqu'au bout de cette capacité infinie, et que tu rentres précisément dans l'assimilation au principe non manifesté. C'est-à-dire, c'est ça, le Christ, c'est, il nous a divinisés, nous sommes divins, nous sommes Dieu, image, semblance de Dieu, nous-mêmes. Voilà, pendant que tous ces savants, etc., disent, mais oui, l'infini dans la matière, je suis le seul à avoir la matière, c'est pour ça qu'on est au-dessus des anges. Etc., etc. Pendant ce temps, les pauvres, les nuls, les abattardis, les êtres rampants comme nous qui ne comprennent rien, ce truc-là. Justement, si Satan a pris l'intelligence de l'homme, l'intelligence raisonnante, l'intelligence ontologiste, l'intelligence d'efficacité, l'intelligence de la méthode, l'intelligence pour avoir le plus de pognon possible, le plus de plaisir possible, le plus de pureté possible, etc., etc. Ça, c'est des... Mon père, est-ce qu'il y a une méthode pour être chaste? Il n'y a pas de méthode. Une méthode? Le premier qui me trouve une méthode, je lui fais un coup de pied aux fesses. C'est pas vrai, il n'y a pas de méthode. Pour la vie spirituelle, il n'y a pas de méthode. Il y a la réalité. Il y a l'adoration, ça c'est sûr, mais c'est pas une méthode. Alors, tous ces gens-là, ok, mais les autres, les pauvres, ils sont pris donc par l'ontologisme. Les pauvres, les tout pauvres, ils sont blessés, ils n'y arrivent pas, ils rampent, ils ne comprennent plus, ils se sentent... Ils souffrent quoi, ils souffrent, ils sont totalement pris par la souffrance. Totalement, complètement pris par la souffrance. C'est comme Marie, totalement pris par la souffrance, pauvre. Au pied de la croix, clac, le Verbe de Dieu saisit son cœur. Le Verbe de Dieu. Transverbération du cœur de Marie. C'est la relation entre le Verbe de Dieu et son amour blessé, détruit, pauvre. Et c'est uniquement dans la grande pauvreté, la plus grande obscurité de notre cœur, de notre amour, qui ne comprend plus rien, qui s'il se laissait prendre à lui-même, ben, il casserait tout. Quoi. Mais il ne le fait pas parce qu'il est pauvre. Il souffre trop. Alors du coup, il est petit, il est humble, il est tout pauvre, il ne comprend rien, il est toujours dans la chute. Toujours en bas. Et c'est à cause de ça. Vous voyez bien ? Satan, lui, il prend que les intelligences qui vont bien, les gens qui marchent bien, efficacité, vous voyez ? Les gens qui sont efficaces. Et en faisant ça, il se détruit lui-même. Il s'est détruit lui-même. Parce que du coup, Marie peut prendre les plus pauvres. Et du coup, le cœur immaculé de Marie peut se réincarner dans notre monde aujourd'hui. Et Satan peut être revaincu grâce à ça. Parce que c'est à cause de cette espèce d'ambiance terrible que notre pauvreté devient totale. Cette ambiance terrible d'anthologisme, que notre pauvreté devient totale. On souffre, on souffre, on souffre. Dieu n'est plus là, la vérité n'est plus là, la vie n'est plus là, l'être n'est plus là, l'humain n'est plus là. Alors on souffre terriblement. Et on devient très très pauvre. Et c'est grâce à Satan, c'est grâce au dragon qu'on est si pauvre. Et du coup, c'est grâce à ça que le cœur immaculé de Marie va pouvoir renouveler cette transverbération dans le cœur de l'Église. Elle va prendre que des pauvres. Uniquement des pauvres, et pas beaucoup. Et c'est grâce à ça qu'il y a cette espèce de grande victoire de Jésus sur le monde. Voilà, je voudrais laisser ça, rester là pour l'instant. Et puis, nous allons, à partir de là, essayer, quand même. Mon projet, c'est de faire ceci, pour que vous ne soyez pas trop effrayés. C'est de regarder, de manière très verticale, faire une espèce de théologie scientifique, métaphysique du mystère de Marie. À chaque fois, je prendrai ce petit carnet, c'est ça. Alors, attention, accrochez-vous à votre stylo. Enfin, j'aimerais que quelqu'un prenne la responsabilité de mettre un tableau derrière. Et puis, on prendra pour se faire une petite récréation la dévotion, pour vous montrer qu'on n'est pas contre. N'est-ce pas? On va prendre la dévotion, donc Gobi, vous voyez bien? C'est de la dévotion. C'est très très bien. C'est des locutions intérieures, c'est des révélations privées. Mais, vous voyez, comme ça, et à partir de là, entre les deux extrêmes, n'est-ce pas? Les deux extrêmes, il va falloir qu'on trouve, nous, le mystère de Marie. Les deux extrêmes. Vous voyez bien, la dévotion, tout ce qui s'explicite à partir de ce qu'on vit, hein, quand on vit dans l'union avec Marie, cette espèce de grande dévotion. Bon, et puis, le mystère, la doctrine toute pure, avec enlever toutes les écorces, uniquement la sève. Et puis, à partir de là, il va falloir que ça permettra à notre cœur de rester un peu éveillé pour pas tomber dans l'hérésie donc de pneumatomaque, n'est-ce pas? Et donc on va demander à Saint Basile d'être toujours là, parce que Saint Basile, c'est lui qui a écrasé les pneumatomaques, n'est-ce pas? Que l'Esprit Saint soit là, il faut être fidèle à l'Esprit Saint, et il faut qu'il y ait cet amour divin de Marie. Et l'Esprit Saint a épousé Marie. Marie épouse de l'Esprit Saint. Il faudra qu'on voit ça. Et alors, du coup, que notre cœur, même au niveau sensible, soit un peu éveillé. Ce sera pas mal. Bon, ce sera un peu sensible, mais... Et deuxièmement, notre intelligence. Il faut que notre intelligence soit réveillée aussi. Parce que c'est ça qui est merveilleux avec l'appétit, de la volonté et de l'amour, c'est que quand au niveau sensible, mon cœur est réveillé, comme la volonté n'a pas d'étage, il y a des degrés dans l'amour, mais il n'y a pas d'étage, quand j'aime un peu, j'aime avec tout ce que je suis. Et du coup, le spirituel du cœur est présent. C'est un des avantages du mystère de l'incarnation. Donc, on va prendre ça. Et puis, de temps en temps, ça pour la petite récréation, parce que hard, c'est trop vertical. Alors du coup, on va prendre l'horizontal. Mais vous sentez bien que c'est ni la verticale, ni l'horizontale. La foi, je viens de vous l'expliquer, c'est indirecto. Ni l'horizontale, ni verticale, tout à fait pure, de l'intelligence pure.